République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم.
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux, et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de la radio francophone iranienne en ce vendredi 1er mars 2024, le 11 Esfand 1402 du calendrier persan. Nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Restez avec nous. Les Iraniens aux urnes pour élire un nouveau Parlement et l'Assemblée des experts. Aux États-Unis, des vétérans brûlent des uniformes en hommage à Bushnell et dénoncent le génocide à Gaza. Les États-Unis ont bloqué la motion de l'ONU blâmant Israël pour les morts liées à l'attaque contre des Palestiniens venus chercher de l'aide humanitaire rue Al-Rachid à Gaza. C'était les principaux titres de l'actualité, en voici les détails. Les Iraniens se rendent aux urnes pour élire un nouveau Parlement Majlis islamique à l'Assemblée des experts du pays ce vendredi. Les bureaux de vote ont ouvert ce vendredi 1er mars à 8h, heure locale, dans tout l'Iran, avec plus de 61 millions d'électeurs éligibles à travers le pays. Le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Seyed Ali Khamenei, a voté dans un bureau de vote à Téhéran dès les premières minutes suivant le début du scrutin avant de prononcer un discours. Ma première recommandation à notre cher peuple est que le Coran nous dit de rivaliser dans des bonnes actions et d'être en avance sur les autres. Je l'ai dit lors des dernières élections et je souligne aujourd'hui que vous devriez profiter de cette opportunité au mieux possible et voter le plus tôt possible, a-t-il affirmé. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant de faire d'aujourd'hui un jour béni, a déclaré l'Ayatollah Khamenei, espérant que la nation iranienne et ceux impliqués dans le déroulement des élections atteindront les résultats souhaités. Notre chère nation devrait, dit le leader, savoir qu'aujourd'hui les yeux du monde entier sont tournés vers l'Iran et vers vous. Ils veulent voir ce que vous faites lors de cette élection et quel sera le résultat de votre élection. Nos amis, ceux qui s'intéressent à la nation iranienne, mais aussi les malveillants suivent les événements en Iran. Rendez vos amis heureux et décevez les malveillants, a-t-il souligné. Le leader a appelé tous les électeurs à participer le plus nombreux possible au scrutin et voter pour le nombre requis de personnes dans chaque circonscription, pas pour moi. À titre d'exemple, a-t-il précisé à Téhéran, voter pour 30 personnes au Parlement et pour 16 personnes à l'Assemblée des experts. Mon dernier mot à ceux qui hésitent encore, mon dernier conseil est qu'il n'est pas nécessaire de recourir à l'istikhara, attendre dans l'hésitation pour faire le bien, a conclu l'Ayatollah Khamenei. De son côté, le président iranien Ebrahim Raisi a salué la tenue des élections dans le pays et l'a considéré comme une célébration dimension nationale et un symbole d'unité. Le vote du peuple est décisif car tous les secteurs du pays sont déterminés par le vote du peuple et c'est l'un des honneurs de l'ordre islamique, a déclaré le président de la République islamique d'Iran. Cette élection est une célébration nationale et un symbole de cohésion et d'unité nationale et tous les groupes politiques sont venus aujourd'hui avec leurs candidats pour marquer un jour glorieux pour la nation iranienne, a-t-il dit. Selon lui, le gagnant de ces élections est la nation iranienne et il n'y a pas de perdant ni même parmi les candidats puisque ces derniers ont rempli leur devoir de participer aux élections. Par ailleurs, le porte-parole de la police iranienne, le général de brigade Saïd Montazer al-Mahdi, a déclaré que 190 000 policiers étaient en service pour assurer la sécurité des élections et qu'aucun problème n'a jusqu'à présent été signalé. Tout est sous contrôle depuis les frontières jusqu'au centre du pays, a-t-il ajouté. Les États-Unis ont une fois de plus soutenu la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza en bloquant la motion de l'ONU blâmant Israël pour les morts liées à l'attaque de jeudi contre les Palestiniens venus chercher de l'aide humanitaire rue Al-Rachid à Gaza. L'envoyé palestinien a imploré les membres du Conseil de sécurité de poursuivre les responsables du massacre, Israël prétendant que la plupart des morts sont dus au mouvement de foule. Face à l'opposition des États-Unis, les pays arabes n'ont pas réussi jeudi soir à obtenir un soutien suffisant pour une déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU qui aurait rendu les forces israéliennes responsables de la centaine de morts signalées lors de l'attaque. Riyad Mansour, l'ambassadeur palestinien auprès de l'ONU, a déclaré aux journalistes à l'issue d'une réunion d'urgence que 14 des 15 membres du Conseil avaient soutenu la déclaration proposée par l'Algérie, le représentant des pays arabes au sein de l'organe. Le projet de déclaration soumis par l'Algérie exprimait une profonde inquiétude et indiquait que la situation résultait des tirs des forces israéliennes. Selon une source diplomatique, les États-Unis se sont opposés à ce qu'Israël soit nommé, mais les discussions allaient se poursuivre. Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui s'est réuni en urgence jeudi après la mort de 110 personnes selon le Hamas lors d'une distribution d'aide à Gaza, doit dire « ça suffit », a plaidé l'ambassadeur palestinien aux Nations Unies. Ce massacre monstrueux est une preuve que tant que le Conseil de sécurité est paralysé et que des vétos posés des Palestiniens payent de leur vie, a déclaré Riyad Mansour à la presse, alors que les États-Unis ont bloqué la semaine dernière pour la troisième fois une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. L'Iran a pour sa part fustigé les États-Unis et l'Europe pour leur silence sur le génocide à Gaza après que les forces israéliennes ont tiré sur des Palestiniens venus chercher de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et tué plus de 100 d'entre eux. Plus de 100 citoyens palestiniens qui faisaient la queue pour recevoir une aide humanitaire dans la rue Al-Rachid à Gaza sont tombés en martyrs. Plus de 800 personnes ont été blessées à cause de l'attaque barbare du régime sioniste, a écrit le porte-parole de la diplomatie iranienne Nasser Kanani sur X. La blessure de Gaza ne sera pas effacée de la mémoire des peuples libres du monde et la honte de soutenir et de garder le silence face au massacre et au génocide des Palestiniens par le régime criminel sioniste sera évidente sur le front des faux champions des droits de l'homme aux États-Unis et en Europe. Plus de 100 Palestiniens ont été tués et des centaines d'autres blessés lorsque les forces israéliennes ont tiré sur la population, a déclaré le ministère palestinien de la Santé, qualifiant l'incident de massacre. Des ONG et des experts de l'ONU ont exprimé leur crainte d'une famine dans le nord de Gaza et des rapports font état des personnes, y compris des bébés, qui meurent de faim. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, OCHA, a décrit la situation de la sécurité alimentaire comme extrêmement critique à travers Gaza, en particulier dans le nord de Gaza. Selon le Programme alimentaire mondial, PAM, aucun groupe humanitaire n'était en mesure d'acheminer de l'aide dans le nord depuis plus d'un mois. L'agence a accusé Israël de bloquer l'accès. La fusillade dans la ville de Gaza alourdit le bilan des victimes palestiniennes de la guerre israélienne qui, selon le ministère de la Santé, a dépassé les 30 000 martyrs ce jeudi 29 février. suite du journal, des images circulant sur les réseaux sociaux montrent d'anciens militaires américains brûlant leurs uniformes en hommage à l'aviateur américain récemment décédé après s'être immolé en signe de protestation contre le soutien total de son pays à la guerre génocidaire en cours du régime israélien contre la bande de Gaza. Lors d'une veillée commémorative à la mémoire d'Aaron Bushnell dans l'Oregon, des vétérans américains se sont livrés à un acte d'hommage poignant en brûlant leurs uniformes militaires dans une poubelle en feu. Ce geste symbolique visait non seulement à honorer le défunt aviateur américain, mais aussi à exprimer un profond rejet de ce qu'ils perçoivent comme une complicité américaine dans le génocide en cours contre les Palestiniens à Gaza. Par ailleurs, l'armée israélienne a reconnu l'état dégradé de la santé mentale de ses soldats participant à la guerre à Gaza, révélant dans un rapport qu'ils souffrent de nombreux troubles mentaux tels que le stress post-traumatique. Alors que de nombreux avertissements ont été lancés sur l'effondrement psychique au sein de ces troupes peu après le début de la guerre à Gaza, l'armée israélienne a révélé la manifestation de symptômes de stress post-traumatique chez 30 000 de ses soldats. Selon les informations publiées par l'armée du régime israélien, jusqu'à présent, 85% des 1730 soldats diagnostiqués, soit 1470, ont été traités par des experts de l'armée en santé mentale ou qu'ils ont été orientés vers des centres compétents. Le corps médical de l'armée sioniste a annoncé l'inauguration d'un nouveau centre d'aide psychologique pour les soldats, alors que beaucoup d'entre eux craignent de développer un trouble de stress post-traumatique après les combats avec le mouvement de résistance palestinien Hamas dans la bande de Gaza. Et pour fermer le journal, sachez que 66 personnes ont été interpellées vendredi matin à Paris après le blocage surprise par des agriculteurs de l'Arc de Triomphe bloquant brièvement la circulation avec des bottes de paille et des tracteurs, a indiqué la police de la capitale française. Peu après 7 heures locales, des voitures de police étaient disposées au pied du monument et la circulation sur le haut de la célèbre avenue toujours bloquée. Débutée à l'aube, la manifestation au pied de l'arc a pris fin vers 9h40 locale, selon une journaliste de l'AFP. D'autres actions avaient lieu ailleurs près de Paris. 4 tracteurs bloquaient une sortie du périphérique et d'autres se positionnaient au niveau d'un autre accès de ce boulevard ceinturant la capitale, selon la police. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute de notre commentaire politique. L'agression à Gaza révèle les mensonges de l'Occident, indique le mouvement yéménite Ansar Allah. L'ennemi sioniste poursuit depuis 6 mois ses crimes avec le soutien et la complicité de l'Occident, États-Unis en tête, auxquels s'ajoute l'inaction honteuse du monde arabe, a déploré Sayed Abdul Malik Al-Houssi. Al-Houssi, le leader du mouvement Ansar Allah au Yémen, a déclaré jeudi, dixit, « Les pays occidentaux avec à leur tête les États-Unis sont en totale contradiction avec leurs prétentions sur la Palestine », affirmant que l'agression contre Gaza a révélé la fausseté des affirmations et des verbiages de l'Occident et des États-Unis. Al-Houssi s'est exprimé en ces termes. L'ampleur des crimes commis par les sionistes auxquels participent directement les États-Unis et qui sont soutenus par l'Occident dépasse toute imagination et brise tous les tabous. L'Occident prend les mesures contradictoires en matière des droits de l'homme et l'agression à Gaza vient étayer cette affirmation, a-t-il poursuivi. Les décisions américaines concernant l'humanité et les droits de l'homme sont les plus contradictoires, a-t-il ajouté. les occupants ont commis 2735 massacres au cours du génocide en ciblant des civils à Gaza, y compris le dernier massacre qui a eu lieu dans la rue Al-Rachid. L'agression à Gaza a fait plus de 100 000 martyrs, blessés, disparus et prisonniers, a déploré Al-Houssi. Évoquant l'épidémie des maladies contagieuses à Gaza, le leader d'Ansar Allah a déclaré « Il y a maintenant une épidémie de maladies infectieuses dans la bande de Gaza qui a touché environ un tiers de sa population. » Et il a poursuivi « La plupart des enfants à Gaza souffrent de la faim et des maladies, alors que les occupants continuent à aggraver cette situation et d'intensifier le siège », ajoutant que l'aide autorisée à Gaza ne couvre que 5% des besoins de la population, tandis que les camions sont empêchés d'y entrer. Le leader d'Ansar Allah a indiqué « Le régime occupant a lamentablement échoué à éliminer les combattants à Gaza et à récupérer les prisonniers malgré le grand soutien de la partie américaine ». Et lui de conclure que bien que 5 mois se soient écoulés depuis l'incursion et le siège de Gaza par le régime israélien, les combattants de la résistance se battent courageusement et efficacement contre l'ennemi.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, selon le ministre iranien des Affaires étrangères, le régime israélien est une véritable source de prolifération des armes de destruction massive, appelant à une mobilisation internationale massive et immédiate pour donc faire face à cette grande menace. Le régime israélien, justement, avait menacé de larguer une bombe nucléaire sur la bande de Gaza. Donc, il dénonce également l'inaction du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'égard de la guerre génocidaire que mène le régime israélien contre la bande de Gaza, c'est-à-dire les Palestiniens. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Le ministre iranien des Affaires étrangères considère le régime israélien comme une véritable source de prolifération des armes de destruction massive ADM dans la région, rappelant que ce régime constitue aussi la menace la plus grave qui existe pour l'humanité toute entière. Hossein Hamid Abdollahian a fait ses remarques le 26 février lors d'une réunion avec des membres de la conférence de désarmement à Genève, en Suisse, où il a appelé à la mobilisation des efforts internationaux contre les menaces posées par le régime israélien à la paix et à la sécurité mondiale. Il est nécessaire que tout l'arsenal nucléaire du régime israélien soit éliminé et que toutes ces installations nucléaires soient placées sous les mécanismes de garantie et de vérification de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, a-t-il déclaré. Le ministre iranien a rappelé que l'administration israélienne, dirigée par Benjamin Netanyahou, avait été enhardie par le soutien des États-Unis et de certains pays occidentaux dans la guerre en cours contre les Palestiniens à Gaza. Le régime ayant même menacé d'utiliser des armes nucléaires contre le Hamas, le mouvement de résistance au pouvoir dans le territoire assiégé de Gaza. Ce n'est pas un lapsus de la part d'un ministre du cabinet de Netanyahou qui a recommandé d'utiliser l'option nucléaire pour éliminer le mouvement de libération du Hamas. Netanyahou avait déjà évoqué la nécessité de confronter l'Iran à une véritable menace nucléaire dans son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2023, a fait noter le plus haut diplomate iranien.
Eh bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau du débat nos deux invités, en commençant par Aysar Midani, intellectuel, expert franco-syrien des questions internationales. Bonjour, Madame Midani.
Bonjour, ravi d'être avec vous. Je vous remercie de votre invitation. Bonjour à Monsieur Develay et à tous.
Et un grand bonjour à Arnaud Develay, maître et juriste international. Bonjour, Monsieur Develay.
Oui, bonjour à vous et bonjour Dr Miden.
Eh bien voilà, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer donc le débat d'aujourd'hui en s'adressant donc à Issar Midani qui est avec nous depuis la France. Alors, le régime israélien qui menace de larguer une bombe nucléaire sur la bande de Gaza est une menace ou bien l'Iran qui a des activités nucléaires à des fins uniquement pacifiques? Quel est à votre avis?
Écoutez, le régime fantoche d'Israël est un danger public en fait pour l'ensemble des pays de la région. Toute façon, de toute son histoire, il n'a fait que mener des guerres contre les pays voisins, des guerres contre la Palestine, contre le Liban, contre la Syrie, contre l'Égypte, hein, contre la Jordanie. Et à chaque fois, ça s'est soldé par l'appropriation illégal de terrain par la force, ce qui est une entrave et une violation de la loi internationale, d'une part. D'autre part, il n'arrête pas de... Il faut savoir quand même qu'il a des têtes nucléaires, plus de 300 têtes nucléaires, chose qui a été dévoilée par leur expert nucléaire qui, à la suite de ça, a été effectivement emprisonné pendant 20 ans. Il ne déclare pas. C'est quand même un pays qui est soutenu à bout de bras par les États-Unis, qui lui fournit, et les pays de l'OTAN, qui lui fournissent des armes de destruction massive, c'est le cas de le dire, des munitions, des bombes de plusieurs tonnes, de beaucoup de tonnage qu'on ne voit que dans les grosses guerres ou dans les guerres où que les Américains larguent. D'ailleurs, les Américains commencent pour faire une destruction aussi d'un pays, la destruction d'un pays entièrement. En plus, ajouter ceci, donc à tout cela, ajouter à un gouvernement, un ensemble de gouverneurs qui, depuis le début d'ailleurs, ont été des véritables fauteurs de troubles et de véritables génocidaires, quand même. Il faut savoir que Israël a commencé sur la base d'un génocide qui a été perpétré contre les Palestiniens dès le départ à Khan Younes et qui a provoqué l'exode de 700 000 Palestiniens du pays dans les pays voisins, et que ce pays n'a jamais, cette entité fantoche, elle n'a pas cessé d'agresser aussi tous ses voisins, elle n'a pas cessé d'agresser les Palestiniens, toujours dans l'esprit de d'un exode terrible et qui ferait qu'ils s'approprient leurs terres, leur pays, même leur culture et même leur histoire. Donc c'est une histoire qui, qui est très cohérente avec sa pratique actuelle, et qui continue au vu et au su du monde entier, parce qu'il est soutenu par les grands pays impérialistes comme les États-Unis, la France, l'Angleterre et l'Allemagne, et aussi tous les pays de l'OTAN.
Absolument. Merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de Arnaud Develay, juriste international. Alors, Issar Midani est vraisemblablement en colère. Elle a raison de l'être donc à l'égard de cette guerre génocidaire que mène le régime israélien contre la bande de Gaza, c'est-à-dire les Palestiniens. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Arnaud Develay, a dit que le régime israélien était une véritable source de prolifération des armes de destruction massive. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, absolument. D'autant plus que dans le cas de l'entité sioniste, cette dernière pratique ce qu'elle, jusqu'à très récemment, appelait la doctrine d'ambiguïté stratégique, à savoir qu'il était hors de question d'admettre qu'elle possédait ces armes, mais qu'en même temps, elle ne niait pas qu'elle les avait. Avec les déclarations récentes d'un des membres du cabinet de Netanyahou, on sait maintenant de manière certaine que Israël possède ses armes. Et le problème, si vous voulez, c'est qu'elle refuse de se plier au droit international en la matière, à savoir le régime de non-prolifération. Et partant de là, elle refuse aussi à tout pays dans la région d'établir la parité, et elle se livre à des opérations qu'on pourrait rappeler, à évoquer comme faisant de la projection quelque part, puisqu'elle impute à l'Iran une volonté belliciste quant à l'exploitation de l'uranium enrichi. L'Iran n'a jamais caché son désir de diversifier ses sources énergétiques et ce faisant a développé des centrales nucléaires à but civil. Elle a signé le pacte de non-prolifération pour essayer de montrer sa bonne foi. L'Iran s'est engagé dans des pourparlers qui ont duré plusieurs années et qui ont culminé avec l'accord sur le nucléaire de 2015. Accord qui a été immédiatement bafoué 3 ans plus tard par l'administration Trump, qui a unilatéralement s'est retiré donc de l'accord, et ce faisant a suspendu les sanctions iniques contre l'Iran. On impute maintenant à l'Iran sa volonté de développer un engin nucléaire dans les 6 mois. C'est ce que Netanyahou passe son temps à dire à l'Assemblée générale des Nations Unies depuis au moins 15 d'années maintenant, en disant à chaque fois que l'Iran est sur le point de le faire, que ça va prendre 6 mois, mais qu'il se trouve que tous les rapports des agences de renseignement américaines sur le sujet, tous les 4 ans, précisent que ce n'est absolument pas le cas. D'autant plus que l'Ayatollah Ruhollah Khomeini a lui-même, à l'époque, formulé une fatwa considérant que l'usage même de l'arme nucléaire était contraire aux principes de l'islam. Mais les faits ne semblent pas dissuader l'entité sioniste qui agite constamment cette menace fantôme, alors qu'elle pratique elle-même un terrorisme d'État qui, avec le fait qu'elle possède des armes nucléaires, fait peser un danger certain sur la région et partant de là sur le monde, puisque ainsi que Mme Milani l'a souligné, la plupart des têtes nucléaires dont dispose l'entité sioniste, et ça on le sait de la part d'un de leurs experts, Mordecai Vanunu, qui lui-même avait révélé l'existence du projet, du projet nucléaire en 86. Il avait été condamné à 20 ans de réclusion où il était en isolement essentiellement. On lui refuse tous les ans l'opportunité de quitter le pays alors qu'il a purgé sa peine. Mais un autre expert, M. Van Creveld, qui travaillait, je crois, pour le centre de recherche de Herzliya, a lui-même déclaré que, en fait, les têtes nucléaires étaient déjà calibrées pour non seulement détruire les capitales de la région de l'Asie occidentale, mais aussi de l'Europe. Ce qui fait que, quelque part, la France, en permettant à l'entité sioniste d'obtenir l'arme nucléaire, s'est elle-même, parmi d'autres, mise dans une situation où elle risque de récolter les fruits de sa politique mal avisée des années 50. Donc, comme disait à l'époque le général Moshe Dayan, il considérait que le monde devait percevoir l'entité sioniste comme un chien fou et ce faisant être plus ou moins disposé à faire ce que Tel Aviv leur ordonnait de faire.
Absolument.
Donc c'est un peu la situation dans laquelle on se trouve maintenant.
Absolument. Aïssar Milani, donc selon le ministre iranien des Affaires étrangères, le régime israélien est la plus grande menace pour l'humanité entière. À quel point il faudra prendre au sérieux donc cette menace qui vont larguer une bombe dans la bande de Gaza, par exemple?
Je salue effectivement le ministre des Affaires étrangères iranien pour avoir parlé de cette vérité, je dirais, et de manière ouverte et alarmant les pays du monde à prendre ceci au sérieux, ça d'une part. D'autre part, je pense que c'est effectivement à tous les pays de la région et du monde à prendre effectivement cette menace au sérieux, parce que les dirigeants, on le voit très bien, les dirigeants d'Israël sont fous et ils sont capables du pire. Donc ils sont capables d'une destruction du monde entier, et pour sauvegarder leur pouvoir, pour sauvegarder leur je ne sais pas quoi, en fait leur ego, je dirais, et donc c'est une véritable menace pour le monde entier. On le voit déjà, c'est une menace pour tous les pays de la région, effectivement, et donc il faut procéder effectivement immédiatement au désarmement d'Israël, ce qui est aujourd'hui dirigé par un régime nazi, qui est aussi fou, si plus, sinon plus, que le régime nazi hitlérien. Et il est aussi donc important de mettre tous les efforts pour désarmer cet État belliqueux.
Justement, Issar Midani, le ministre iranien des Affaires étrangères, rappelait à une mobilisation internationale massive et immédiate contre le régime israélien. Donc démilitariser donc ce régime qui possède plus de 300 ogives nucléaires. Mais comment il faudra le faire, à votre avis, Issar Midani?
À mon avis, il faut quand même que les instances déjà aujourd'hui qui s'occupent du contrôle du nucléaire, du désarmement et puis du nouveau monde, je dirais, d'un monde sans menace ou sans hégémonisme, que en fait tous les pays s'y mettent parce que c'est synonyme de la domination hégémoniste américaine, mais avec la folie israélienne en plus. Donc je crois que toutes les instances internationales devraient s'y mettre et tous les pays devraient appeler effectivement à exercer une grande pression sur l'AIEA, déjà, cet organisme qui contrôle les présences des armes atomiques, pour œuvrer à désarmer ce pays. Et puis surtout, quand même, prendre acte de toute l'histoire des agressions israéliennes contre les peuples voisins et tous les peuples qu'ils ont agressés, pour mener effectivement des procès. Aujourd'hui, le procès, je dirais, qui est mené à la Cour internationale de justice doit être un point d'appui crucial, dans lequel d'ailleurs tous les témoignages ont été accablants pour cet État fantoche. Il faudra que ce soit effectivement une pierre angulaire de la mobilisation contre, pour désarmer ce pays.
Absolument. Maître de Velay, nous sommes face, bien sûr, à une inaction du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui est dénoncé donc partout dans le monde avec le veto donc américain. À votre avis, avec cette inaction, est-ce que cette mobilisation internationale est possible?
Moi, je pense que c'est une question qui est intimement liée à ce sentiment d'impunité que l'antiquitationniste bénéficie au travers du veto américain. Et donc, cela passe par un changement de politique à Washington et une prise de conscience du danger que représentent les dirigeants sionistes. On le sait, de par leurs déclarations et de par même leur doctrine nucléaire. On se rappelle qu'en 1973, par exemple, alors que sur le plan conventionnel, la guerre de 1973 était très mal engagée, qu'à l'époque, ils avaient fait en sorte que leur silo soit visible du ciel. Et en cela, c'était déjà une forme de chantage nucléaire qui avait mené à des pourparlers immédiats. Donc ce chantage doit cesser, mais pour cela, il faut que l'entité sioniste soit forcée de signer le régime de non-prolifération, ce qui permettrait à l'Agence internationale atomique de venir inspecter les sites dans le Negev, à Dimona, et partant de là, de procéder à des recommandations. Mais je pense que cela ne sera pas possible tant que les fonds continueront à affluer dans l'entité sioniste essentiellement. Donc c'est une question avant tout d'argent et jusqu'au moment où les États-Unis ne seront plus en mesure de payer les 3 ou 4 milliards de dollars par an et de subventionner l'économie israélienne, je ne pense pas qu'il y aura malheureusement d'intérêt pour que l'Israélien le fasse d'eux-mêmes. Donc il faudra à un moment donné acter, si je puis dire, l'écroulement interne de l'économie américaine, son incapacité à imprimer de l'argent pour financer tout un tas d'activités néfastes. Ça ne se limite pas juste au soutien à l'entité sioniste, mais aussi au fonctionnement de leur base tout autour du monde. Et dans un contexte qui verra ensuite leur soutien principal ne plus être en mesure de les soutenir, alors on pourra commencer à entrevoir une fenêtre d'opportunité et les forcer à faire ce que jusqu'à présent ils se refusent à faire.
Arnaud Devollet, la volonté internationale, surtout chez les jeunes, existe bien sûr, mais la volonté chez les Américains, le gouvernement américain et certains pays européens pour leur soutien au régime israélien continue, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr, c'est malheureusement un peu toujours la même configuration. Il y a une différence entre les peuples et leurs dirigeants. Et les dirigeants occidentaux ont plus ou moins acté leur soutien, je cite, indéfectible, à l'entité sioniste. Et on peut penser que la découverte de ces gisements de gaz au large de Gaza est une grande, comment dirais-je, une des raisons principales derrière leur soutien au génocide actuel, puisque pour des raisons plus ou moins liées à la situation en Ukraine et avec la Fédération de Russie, ils ont besoin de se ménager une alternative en ce qui concerne l'approvisionnement du gaz. Donc c'est quelque chose aussi qu'on doit prendre en compte et qui est tout est lié quelque part. Ce qui se passe en Ukraine est intimement lié à ce qui se passe à Gaza. Et donc je pense qu'il faut avoir une approche globale sur une résolution de la situation en faisant abstraction de certains théâtres d'opération. Tout est lié, que ce soit ce qui se passe dans les régions du Donbass jusqu'à ce qui se passe dans le détroit d'Aden, hein, ou le détroit de Bab el-Mandeb.
Tout à fait.
C'est un même front continu.
Absolument. Aïssa Armidani, est-ce que vous voulez bien conclure le débat d'aujourd'hui, je vous prie?
Oui, moi je pense quand même qu'il faut faire effectivement un front mondial contre la prolifération des armes nucléaires, d'une part, et puis d'autre part, effectivement, obliger au désarmement d'Israël et aussi au désarmement des toutes les forces belliqueuses comme ça dans le monde. Mais pour cela, il faut aussi qu'il y ait les grands pays, comme pas seulement l'Iran, mais surtout comme la Chine et la Russie, qui se joignent à cette volonté de désarmement. D'ailleurs, ce qui est étrange, c'est que hier, on fait des réunions sur le désarmement et on accentue l'armement pour préparer une guerre mondiale. C'est quand même paradoxal de l'attitude de l'ensemble de ces pays. Et je crois que ce sont les peuples qui doivent mettre la pression sur leur gouvernement pour cela.
Et surtout la jeunesse, Aïssa Armidani, n'est-ce pas?
Oui, la jeunesse, mais dans la jeunesse, il y a aussi des mouvements néo-nazis, n'oublions pas. Donc c'est en fait la jeunesse qui refuse effectivement l'hégémonisme de certains pays contre d'autres, hein, qui reconnaît la souveraineté, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et surtout de leurs richesses, surtout ça. Et cette jeunesse, je crois qu'elle est en train de grossir un peu dans le monde, mais il y a aussi une jeunesse fascisante qui monte aussi, surtout dans les pays européens, on le voit, favorisée par un discours raciste, fasciste, etc., anti-immigrés, anti-islam. Donc, qu'il ne faut pas perdre de vue, hein. C'est important de voir. C'est aussi cette manière dont les belliqueux préparent aussi l'avenir.
Oui, Maître Arnaud Devollet, votre conclusion, je vous prie.
Bah, écoutez, je m'inscrirai dans les propos de Dr Midani. Effectivement, c'est la jeunesse qui doit maintenant remplir, si je puis dire, ses obligations. Si elle veut pouvoir préserver l'avenir, il va falloir qu'elle se mobilise et qu'elle arrête de mener une vie d'hédonisme et de consommation, qu'elle s'informe davantage sur les enjeux de notre époque, parce qu'effectivement, dans la trajectoire actuelle, si rien n'est fait, on court à la catastrophe.
Oui. Nous l'espérons pas, en tout cas. Bien, Maître Arnaud Develay, juriste international, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Et un grand merci à Issar Midani qui nous a accompagnés depuis Paris, intellectuel, expert des questions internationales. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qui porte sur les récents crimes commis par l'entité sioniste contre la population civile de Gaza. Au moins 150 Palestiniens venus chercher de l'aide humanitaire ont été tués par l'armée israélienne à Gaza. Au moins 150 Palestiniens ont été tués, des centaines d'autres blessés lors d'une attaque menée par les forces israéliennes dans le nord de la bande de Gaza contre des personnes en attente d'une aide humanitaire. Selon les médias palestiniens, les troupes israéliennes ont attaqué ce jeudi 29 février des civils qui attendaient l'arrivée de l'aide humanitaire dans la ville de Gaza, tuant au moins 150 personnes et blessant plus de 1000 autres. Des dizaines de blessés ont été transférés à l'hôpital Al-Shifa après de bombardements israéliens sur la ville de Gaza. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné le massacre de civils commis de sang-froid sur la place Nablusi. Dans un communiqué de presse, le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que l'attaque faisait partie du génocide mené par le régime israélien et a appelé la communauté internationale à intervenir d'urgence pour protéger les civils. Plus tôt dans la journée, les médias locaux ont rapporté que 47 martyrs palestiniens avaient été transférés à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir el-Bala, dans le centre de Gaza, en raison des crimes commis par l'armée israélienne dans le territoire assiégé. Des sources d'information ont également fait état d'attaques d'artillerie du régime israélien contre un camp dans la ville de Khan Younes ainsi que dans les zones orientales de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Cet incident intervient alors que la Cour internationale de justice avait ordonné au régime israélien d'accroître l'accès à l'aide humanitaire pour la bande de Gaza. De même, les agences humanitaires ont tiré la sonnette d'alarme sur une famine imminente dans le nord de Gaza en raison du blocus imposé par Israël sur l'entrée de l'aide. Le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Ashraf al-Kutra, a également appelé à une action immédiate de la part des organisations internationales pour prévenir la mort d'enfants due à la malnutrition, la déshydratation et une famine généralisée. L'administratrice de l'Agence américaine pour le développement international, Samantha Power, a pour sa part déclaré dans une vidéo publiée sur le réseau social X qu'Israël devait ouvrir davantage de points de passage pour davantage d'aide humanitaire vitale. C'est une question de vie ou de mort, a-t-elle déclaré tout en soulignant la détérioration des conditions de vie à Gaza. Par ailleurs, le Programme alimentaire mondial a mis en garde mercredi 28 février contre une famine imminente dans le nord de la bande de Gaza, où aucun convoi humanitaire n'a pu se rendre depuis le 23 janvier. Selon l'agence palestinienne MAN, le Programme alimentaire des Nations Unies s'est déclaré prêt à accélérer l'expansion et l'intensification de la portée de ses opérations si un cessez-le-feu était conclu à Gaza. Pendant ce temps, l'UNRWA, l'organisation onusienne pour les réfugiés palestiniens, a annoncé que 84 écoles et installations de cette organisation à Gaza ont été directement ciblées et endommagées par les attaques de l'armée israélienne. Selon les dernières statistiques annoncées par l'UNRWA samedi dernier, plus de 1,7 million de réfugiés palestiniens se sont réfugiés à l'intérieur ou à proximité des abris d'urgence de l'organisation onusienne. L'UNRWA a indiqué que 400 d'entre eux avaient été tués lors des attaques israéliennes et que plus de 1300 personnes avaient été blessées. Aucun endroit n'est sûr, y compris les abris de l'ONU, a souligné l'organisation sur X. Pour sa part, un porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a averti que la menace de famine dans le nord de Gaza est réelle et que la crise s'étend au sud de Gaza. Nous n'avons pas reçu suffisamment d'aide et le nombre de camions autorisés est insuffisant, a-t-il averti. En réaction aux récents crimes commis par l'entité sioniste et l'attaque de ce jeudi 29 février contre les civils à Gaza, Téhéran a dénoncé le silence de l'Occident envers les attaques israéliennes contre des Palestiniens. L'Iran a fustigé les États-Unis et l'Europe pour leur silence sur le génocide à Gaza après que les forces israéliennes ont tiré sur des Palestiniens venus chercher de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et tué plus de 100 d'entre eux. Plus de 100 citoyens palestiniens qui faisaient la queue pour recevoir une aide humanitaire dans la rue Al-Rachid à Gaza sont tombés en martyrs et plus de 800 personnes ont été blessées à cause de l'attaque barbare du régime sioniste, a écrit le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Nasser Kanani sur X. La blessure de Gaza ne sera pas effacée de la mémoire des peuples libres du monde et la honte de soutenir et de garder le silence face au massacre et au génocide des Palestiniens par le régime criminel sioniste sera évidente sur le front des faux champions des droits de l'homme aux États-Unis et en Europe. Plus de 100 Palestiniens ont été tués et des centaines d'autres blessés lorsque les forces israéliennes ont tiré sur la population, a déclaré le ministère palestinien de la Santé, qualifiant l'incident de massacre. Les habitants de la ville de Gaza s'étaient rassemblés pour chercher de la nourriture, la zone étant complètement coupée de l'aide par les forces israéliennes. Des ONG et des experts de l'ONU ont exprimé leur crainte d'une famine dans le nord de Gaza et les rapports font état des personnes, y compris des bébés qui meurent de faim. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a décrit la situation de la sécurité alimentaire comme extrêmement critique à travers Gaza, en particulier dans le nord de Gaza. La fusillade de la ville de Gaza alourdit le bilan des victimes palestiniennes de la guerre israélienne qui, selon le ministère de la Santé, a dépassé les 30 000 martyrs ce jeudi 29 février. Le régime d'occupation israélien a tué plus de 30 000 personnes et blessé plus de 70 000 autres à Gaza depuis le 7 octobre 2023, en déclenchant sa machine de guerre après que le mouvement de résistance palestinien Hamas a mené l'opération surprise baptisée Tempête d'Al-Aqsa contre l'entité occupante en représailles à ses atrocités accrues contre les Palestiniens.
Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
à qui Téhéran l'a